Vous écoutez Envers et Contre Tous. Hard Bop et Free Jazz.
Jason Durand, Amaury Perard. Yes, we can.
Bonjour et merci d'écouter ce sixième épisode de Envers et Contre Tous, intitulé Hard Bop et Free Jazz. Je suis toujours avec mon collègue Amaury. Nous avions vu à la fin de l'épisode 5 la création d'un courant appelé Cool Jazz et qui privilégiait la sensibilité et la sonorité en contradiction avec le fougueux bebop. On va observer comme un renouveau dans la vigueur avec le Hard Bop qui va remettre à l'honneur un style musclé sans non plus désavouer le phrasé des Cool Men. Alors en fait, Art Blakey, batteur, rablé et costaud, en est l'une des grandes figures. En général, ses messengers constituent un quintet, trompette, saxophone, piano, basse et batterie. Il va vraiment s'entourer d'excellents solistes et va attirer la quasi-totalité des jeunes Art Boppers de la côte Est. Alors au final, les musiciens de Blakey vont lui offrir ses plus grands thèmes, à savoir par exemple Quicksilver ou Nika's Dream d'Horace Silver, Maonin ou Dat Dare de Bobby Timmons, ou encore Lester Left Town de Wayne Shorter et bien d'autres. Écoutons tout de suite Maonin, composition de Bobby Timmons, interprétée par les Jazz Messengers.
Morning de Art Blakey et ses Jazz Messengers. Alors comme nous l'avons vu, il y a aux États-Unis une progressive déségrégation, mais dans les États du Sud, la situation reste bloquée. Emmett Hill, un jeune de 14 ans venu passer l'été dans la campagne du Sud chez son oncle, ne connaissait pas les règles du jeu. Il se précipita sans comprendre le tabou suprême, l'interdit pesant sur la femme blanche. Il avait à Chicago une petite amie blanche et il s'en vantait aux gamins du coin. L'un d'eux le mit au défi d'adresser la parole à une femme blanche. Sans faillir, il entra dans un magasin et salua la propriétaire avec un « Salut chérie ». Deux jours plus tard, Emmett Hill était retrouvé mort, défiguré et mutilé dans un des bras du Mississippi. Seule sa bague permit de l'identifier. Sa mère, Mamie Till Bradley de Chicago, remua terre et ciel pour faire venir son corps dans le nord. Elle exigea que le cerveuil reste ouvert 4 jours, je cite, « pour que le monde entier puisse voir ce qu'ils ont fait à mon fils ». La presse s'empara de l'affaire et toute une génération de jeunes noirs ne l'oublia jamais. Ce jeune exposa à la nation entière l'horreur tranquille du Sud profond. Pour comprendre l'impact de la ségrégation sur les enfants de couleur fréquentant des écoles ségrégées, le docteur Kenneth Clark avait mis au point une méthode d'étude. Il leur présentait des poupées, certaines noires et d'autres blanches, et quand il leur demandait de désigner les noires et les blanches, les enfants ne se trompaient jamais. S'il leur demandait quelle poupée ils préféraient, la majorité des enfants choisissaient une poupée blanche, certains déclarant même que la poupée noire était vilaine. Quand enfin ils demandaient quelle poupée te ressemble le plus, les enfants acculés à s'identifier à la poupée qu'ils avaient rejetée se montraient agressifs ou bouleversés, refusant parfois de répondre, quelques-uns allant même jusqu'à prétendre se reconnaître dans la poupée blanche. Il était donc évident que ces enfants, soumis aux contraintes de la ségrégation depuis leur naissance, étaient dès leur plus jeune âge pénétrés du sentiment d'infériorité. Malgré la déségrégation des établissements scolaires annoncée par la Cour suprême, on le rappelle le 17 mai 1954, le Sud n'entendait pas accepter cette décision. En 1959, Charles Mingus, grand jazzman et excellent contrebassiste, a écrit Fable of Phobus pour exprimer sa colère contre le gouverneur Orval Phobus, qui s'était rangé du côté des ségrégationnistes afin de faire obstacle à l'intégration des élèves noirs dans les écoles de l'État de l'Arkansas. Le gouverneur éponyme ségrégationniste ainsi que le Ku Klux Klan étaient tournés en ridicule, et le label Columbia refusa d'enregistrer ce morceau, dont les paroles faisaient « Cite-moi quelqu'un de ridicule, le gouverneur Phobus. Pourquoi est-il malade et ridicule? Il s'oppose à l'intégration scolaire. Alors c'est un dingue, abat les nazis, les fascistes, ceux qui se croient supérieurs, abat le Ku Klux Klan. » On écoute tout de suite Fable of Phobus de Charles Mingus.
Fable of Phobus de Charles Mingus. Alors Miles Davis est encore une fois de la partie et en perpétuelle recherche de nouveautés, il se lance dans le hard bop. Il va fréquemment enregistrer avec des artistes hard bop comme Horace Silver et Art Blakey. Miles en fait est un dénicheur de talent. Il va découvrir le jeune John Coltrane qu'il va intégrer à son quintet avec le batteur Philip Joe Jones. Il enregistre en 2 ans 4 albums, à savoir Cooking en 1956, Relaxing, Steaming et Working en 1957. Il disait, je cite, « Il y avait donc à présent Train au saxophone, Philly Joe à la batterie, Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et moi à la trompette. Et plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, la musique que nous faisions ensemble est devenue incroyable. C'était si bon que ça me donnait des frissons, comme au public. Merde, c'est très vite devenu effrayant, tellement que je me pinçais pour m'assurer que j'étais bien là. » Après ses excès de drogue, Miles remonte petit à petit la pente. Il va maîtriser et transformer sa technique. Il gagne en force, en agilité et en aisance dans l'aigu. Son quintet va devenir un sextet et il va y ajouter Cannonball Adderley. À ce moment-là, Miles Davis développe les complexités harmoniques dévoilées par les thèmes bop, cool et hard bop. Il adopte le jazz modal. Avec le jazz modal, Miles Davis va prendre conscience du profit qu'il peut tirer de sa sonorité contemplative. On écoute tout de suite un morceau de son quintet avec John Coltrane, l'album Relaxing de 1957 et le morceau I Could Write a Book.
Soliste brillant et respecté, Coltrane éprouve la nécessité d'aller au-delà de ce qu'il fait. Dans l'un de ses morceaux, Giant Steps, il adopte un nouveau type de grille d'accords aussi peu commun que le tempo vertigineux choisi. Ce type d'enchaînement harmonique, les Coltrane Changes, deviendront un exercice de style et sera proposé aux étudiants de classe jazz pour parfaire leur habileté dans la technique d'improvisation. John Coltrane, en 1959, prend intérêt pour le saxophone soprano de Béchette et se met à pratiquer lui-même cet instrument dont il va faire un outil d'envoûtement. Comme beaucoup avant lui, Coltrane a rapidement de gros problèmes de drogue et d'alcool, ce qui nuira un temps à son jeu, et ceci fut rapidement une source de conflit avec Miles Davis, qui ne supportait pas que ses musiciens prennent de la drogue après que lui ait suivi une cure. Coltrane s'isole un temps, mais revient clean. Maintenant que Coltrane était clean, c'était un peu comme s'il était investi d'une mission. Il me disait qu'il avait assez déconné comme ça, qu'il avait perdu trop de temps, pas suffisamment prêté attention à sa propre vie, à sa famille, mais surtout à son jeu. Miles Davis. Coltrane a maintenant une dimension spirituelle mystique. Il est très empreint de religion et d'histoire africaine et s'inspire beaucoup des musiques africaines et indiennes qui sont souvent imprégnées de mythes et de religions. Mon objectif est de vivre d'une façon authentiquement religieuse et de l'exprimer par ma musique. J'aimerais montrer aux gens le divin dans un langage musical qui transcende les mots. Je veux parler à leurs âmes. John Coltrane. Sa quête spirituelle n'empêche pas Coltrane de réagir aux attentats racistes récurrents qui endeuillent les familles noires dans le sud des États-Unis. Le 15 septembre 1963, 4 fillettes noires sont tuées dans l'explosion d'une bombe dans l'église baptiste de la 16e rue de Birmingham. 2 mois plus tard, Coltrane enregistre Alabama, en hommage aux fillettes assassinées, une pièce lente et envoûtante sur laquelle semble planer l'esprit des 4 adolescentes. On écoute tout de suite Alabama de John Coltrane. Thank you.
Alabama de John Coltrane. Alors jusque-là, la paix raciale semblait régner à Montgomery, le berceau de la Confédération, ville du Sud fière de ses traditions et ségrégée autant que possible. Mais la soumission totale de la communauté noire dissimulait mal les tensions engendrées par ce système ségrégué. Alors bien que les noirs constituent les trois quarts des usagers d'autobus, les 10 premiers rangs de sièges étaient strictement réservés aux blancs. Fréquemment, les noirs voyageaient donc debout, derrière des sièges vides. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks regagnait son domicile. Ce soir-là, quand le conducteur du bus lui demanda de se lever pour laisser la place à un passager blanc, elle ne bougea pas. Menacée de se faire arrêter, elle attendut résolue et fataliste. Rosa Parks fut reconnue coupable d'avoir violé la loi de l'État d'Alabama et a été condamnée à payer une amende. Son avocat entama alors une procédure d'appel et toute la communauté noire de Montgomery commença à se manifester. C'est à ce moment que le jeune Martin Luther King est élu pasteur de Montgomery. Un boycott général des autobus par les personnes noires s'était mis en place et une lutte non violente commençait. Martin Luther King disait, je cite, « Il arrive un moment où les gens sont fatigués. Nous sommes ici ce soir pour dire à ceux qui nous ont maltraités si longtemps que nous sommes fatigués. Fatigués d'être ségrégués et humiliés. Nous n'avons pas d'autre alternative que la protestation. Pendant tant d'années, nous avons fait preuve d'une patience infinie. Mais ce soir, nous sommes venus pour échapper à cette patience qui nous ferait accepter autre chose que la liberté et la justice. » Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors le pouvoir politique de Montgomery refuse toute négociation et la lutte s'annonce être longue. Pour maintenir motivées les troupes, les pasteurs organisaient des réunions deux fois par semaine où ils chantaient, priaient et bougeaient au rythme des spirituals qui parlaient de justice et de liberté. Certains chauffeurs de taxi noirs vendaient les courses au prix d'un ticket d'autobus. Désormais, la police harcela sans répit les chauffeurs, contraventions et agressions les guettaient à chaque carrefour. La municipalité refusait de négocier tant que le boycott n'était pas ôté. En janvier 1956, une charge de plastique explosa sous le porche de la maison de Martin Luther King. Finalement, le 4 juin, la Cour fédérale de district condamna les règles ségrégationnistes en vigueur dans les autobus. Martin Luther King organisa des ateliers pour former les Noirs à la non-violence et les entraîner à faire face à toute hostilité. Malgré les victoires juridiques et les décrets de la Cour suprême, beaucoup d'États étaient hostiles à la déségrégation. Le début des années 60 est marqué pour la communauté noire par un taux de chômage record qui entraîne nombre de mouvements de protestation. Un jazz subversif et libertaire se refuse tout compromis, le free jazz.
Le saxophoniste alto Ornette Coleman enregistre en 1960 un disque justement appelé free jazz. Un seul impératif domine cet enregistrement du double quartet. L'improvisation totale. C'est la remise en question globale tant d'une musique, d'un style de vie, que d'un milieu socio-culturel. Alors bien entendu, l'adhésion à une telle musique n'est pas évidente et une grande partie de la critique la rejette. Le free jazz déroute forcément celui qui espère y trouver les ingrédients qui ont jusqu'alors fait le jazz. Plus de swing, disparition d'un rythme régulier, plus de thèmes identifiables immédiatement et utilisation non académique des instruments. Les musiciens free installent un chaos total et détruisent tous les acquis. C'est une négation de l'harmonie, des rythmes, des mélodies et du son. On écoute tout de suite Ornette Coleman et son morceau Free Jazz.
Free Jazz de Ornette Coleman. Alors pas facile d'écouter ce courant qu'est le free jazz, mais en bouleversant totalement les habitudes musicales, il témoigne d'un ras-le-bol des musiciens afro-américains vis-à-vis de leurs conditions sociales. Cet épisode est terminé, il met fin alors à notre longue série sur le jazz. Bien évidemment, beaucoup d'artistes et d'acteurs de la lutte sociale n'ont pas pu être évoqués. Ces épisodes ont permis une vision globale de ce courant qu'est le jazz, et nous espérons que cela vous donnera envie d'approfondir vos connaissances sur cette culture très riche. On espère que vous serez nombreux à écouter le prochain épisode de Envers et Contre Tous, où nous évoquerons les courants Rhythm and Blues et Soul. Vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur www.associationdesclics.org. Retrouvez aussi la podcast en version longue sur Facebook et SoundCloud. Pour finir, écoutons un morceau de Charles Mingus, un homme qui a été toute sa vie révolté contre le système ségrégationniste. La musique parle de la vie et de la mort, du bien et du mal, elle est vivante, elle est en colère, donc réelle. Son album de 1959, Blues and Roots, témoigne d'un véritable retour aux sources, avec des influences issues du blues et des musiques africaines. On écoute tout de suite Maounin de Charles Mingus et surtout, écoutez du bon son.